Aujourd'hui, le professeur Eli Cohen va nous parler des structures de financement, des exigences des actionnaires et des nouveaux modes de gouvernement des entreprises françaises. Monsieur le professeur, vous êtes né en 1947, vous êtes diplômé de l'école d'HEC, licencié en philosophie, agrégé en techniques économiques de gestion. Vous avez été maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine, directeur du département d'éducation permanente, puis président jusqu'en 1999 de l'Université de Paris-Dauphine. Actuellement, vous êtes professeur des universités à l'Université du Med, professeur à l'Université de Paris-Dauphine et directeur de l'UFR de troisième cycle des sciences de l'organisation. Vous êtes donc un spécialiste en gestion et en finance. Parmi les ouvrages les plus importants que vous avez publiés, je citerai « Analyse financière » des éditions Economica, paru en 1997, et « Le dictionnaire de gestion », paru en 2000, donc très récemment, des éditions La Découverte. Monsieur le professeur, je vous laisse la parole.
Merci. Merci et bonsoir à tous. Pour cette 146e conférence, je suis heureux que nous ayons le temps de parler un peu de finance, parce que malgré les révolutions financières des 20 dernières années, il me semble que des malentendus durables et profonds continuent de marquer les relations entre l'opinion publique française et la finance en général, la bourse en particulier. De nombreuses manifestations récentes prouvent que finalement, l'ampleur de ce malentendu ne se réduit pas et finalement, elle s'enracine, cette situation, dans une vision mythologique des marchés financiers et en général du rôle de la finance investie d'une espèce de puissance quasi mythologique. En réalité, cette mythologie de la finance se décline en deux versions. Une version sombre qui met en avant, sur le mode de la dénonciation, les méfaits d'un système réputé cynique qui foulerait aux pieds les équilibres sociaux au nom d'une revendication illimitée de profits pour les actionnaires et en général pour les possédants. La mythologie des marchés financiers comporte également une vision dorée, c'est le cas de dire, une vision euphorique qui est sous-tendue par une légende qui exalte les triomphes de quelques entrepreneurs à la main heureuse qui réalisent des fortunes souvent rapides et qui font réaliser également des coups mirifiques à ceux qui leur font confiance. Pour illustrer la vigueur de ces deux visions, de ces deux versions de la mythologie financière, quelques faits d'actualité. Tout d'abord, un véritable bouleversement affecte dans les derniers mois, ou depuis les derniers mois, les hiérarchies, les échelles de valeur entre entreprises. Vous avez des start-up récemment créées qui, en quelques années, arrivent à concourir, à concurrencer en capitalisation boursière, en valeur boursière, des entreprises établies, pourtant riches d'innovation, pourtant riches d'une présence commerciale de plusieurs décennies. Comment faut-il interpréter cette situation? Faut-il y voir une espèce de distorsion perverse des échelles de valeur ou, au contraire, une manifestation du dynamisme irrésistible d'une économie d'invention ou d'innovation qui prime la créativité et qui met en avant les nouvelles pratiques économiques et sociales. Un autre exemple, un autre fait saillant, la rapidité avec laquelle un certain nombre de propriétaires et de dirigeants d'entreprises accumulent des fortunes personnelles, ceci, nous y sommes également très sensibles. Faut-il voir dans ces fortunes éclairs finalement le déni des valeurs d'effort et de travail, puisque ce sont des coûts qui permettent, par exemple, à des fondateurs de start-up de se retirer quasiment fortune faite à 30 ans. Faut-il y voir, au contraire, la reconnaissance du rôle créateur de la démarche entrepreneuriale, la reconnaissance du rôle de la prise de risque et de l'hardiesse innovatrice? Un autre exemple encore, les efforts des créateurs d'entreprises pour accéder au financement font apparaître des disparités extraordinairement troublantes. D'un côté, on voit en France des milliers de demandeurs d'emploi, candidats à la création, se livrer à une véritable galère pour obtenir les 50 000 francs qui permettent, vous le savez, à 80% des créations d'entreprises de se réaliser. Et puis d'un autre côté, on voit des jeunes gens porteurs de projets de haute technologie lever apparemment sans peine les millions ou les dizaines de millions de francs qui leur sont nécessaires pour lancer leur entreprise. Enfin, encore un exemple, une observation qui concerne les réactions du marché boursier à l'annonce d'opérations de restructuration, de fermeture de sites ou de réduction d'emplois. Ces opérations, vous le savez, sont parfois saluées en bourse par des flambées du cours des entreprises qui les annoncent. Cette coïncidence entre l'annonce de dispositions manifestement douloureuses et la faveur boursière dont jouissent les entreprises qui en prennent l'initiative doit-elle être considérée comme une preuve du mépris de la finance à l'égard de la situation des travailleurs ? Doit-elle être considérée comme l'expression d'un réalisme économique qui conduit à reconnaître la nécessité d'une certaine flexibilité de l'appareil productif et à préférer la remise en cause d'activités en déclin et le redéploiement des ressources productives et de la force de travail vers des activités nouvelles dont les perspectives de développement apparaissent prometteuses ? Tous ces faits et les modes de lecture diamétralement opposés qu'ils suscitent marquent la difficulté pour parvenir à une vision non pas distanciée ni de juste milieu, mais tout simplement à une vision exempte de passion. Face à ce dualisme, le dualisme de la légende dorée et de la légende noire, je souhaiterais pour ma part me situer à distance de la vision mythologique de la finance et éviter la posture apologétique comme la posture d'imprécation que la finance inspire. Et pour cela, pour revenir sur le terrain solide des fondamentaux, je poserai tout simplement trois questions auxquelles je chercherai à répondre ce soir. Quelles sont, au fond, les fonctions de la finance dans des économies capitalistes avancées et en quoi ont-elles été modifiées au cours des dernières années avec toutes les implications que ces modifications ont pu entraîner. Pourquoi, deuxième question, la finance, les marchés financiers ont-ils acquis une importance croissante dans la plupart des pays développés, et notamment en France ? Enfin, les économies de marché, et notamment de marchés financiers qui prédominent dans un grand nombre de pays aujourd'hui, sont-elles livrées en quelque sorte à une force aveugle, à une dynamique sans contrôle ? Laissent-elles place pour des formes de régulation, des formes de maîtrise qui permettent d'éviter que les économies de marché basculent dans les sociétés de marché. Alors, quelques observations tout d'abord sur ces fondamentaux concernant les fonctions que doit remplir un marché financier, que doit remplir un système financier. Cela nous conduira ensuite à mettre en perspective les évolutions auxquelles l'actualité nous permet d'assister. On peut dire que, d'une certaine manière, les systèmes financiers connaissent un socle invariant et, d'autre part, connaissent des évolutions multiples qui font justement l'actualité quotidienne de la finance. Alors, le socle invariant, quel est-il ? Eh bien, c'est, d'une certaine manière, une gamme de fonctions que tout système financier, quel qu'il soit, doit assumer dès lors qu'on est dans une économie d'échange monétaire. Ces fonctions, je les énonce rapidement, je vous propose de les organiser autour de six idées. En premier lieu, un système financier doit assurer le financement des activités productives, c'est-à-dire qu'il doit permettre aux entreprises d'avancer les capitaux qui leur sont nécessaires pour acquérir les biens durables, les investissements, et pour acquérir également l'ensemble des facteurs qui sont nécessaires à leur activité. Donc, première fonction, une fonction de financement. Deuxième fonction, une fonction de collecte de l'épargne, de mobilisation de l'épargne, fonction qui doit être assumée en proposant aux porteurs de cette épargne, et notamment aux particuliers, des moyens qui leur permettent de stocker leurs excédents dans des conditions qui leur assurent à la fois une rémunération et une sécurité jugées suffisantes. Troisième idée, et elle est évidemment la traduction des précédentes, afin de remplir ces fonctions de mobilisation de l'épargne et de financement de l'activité productive, un système financier doit proposer une gamme diversifiée et cohérente d'instruments financiers, c'est-à-dire d'instruments qui représentent des contrats établis entre acteurs. Ces acteurs sont bien sûr ceux qui apportent les fonds et ceux qui les reçoivent, donc ceux qui fournissent le financement et ceux qui en bénéficient. Quatrièmement, un système financier doit proposer un mode d'organisation des transactions financières, c'est-à-dire des échanges qui s'établissent entre acteurs. En cinquième lieu, il doit proposer des mécanismes de détermination des taux d'intérêt, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent à la fois d'assurer la rémunération des opérateurs qui fournissent des excédents financiers et finalement de charger en quelque sorte un coût pour ceux qui, recevant des ressources, doivent acquitter en contrepartie une rémunération. Enfin, le système financier doit proposer des mécanismes de valorisation, c'est-à-dire des mécanismes de fixation du prix des différents instruments financiers qu'il met en circulation, qu'il met en mouvement. Ces fonctions fondamentales, on peut les trouver à l'œuvre dans tout système financier. Je ne voudrais pas sombrer dans la fascination du non-historique, mais quand on analyse le fonctionnement de tout système financier sur les deux derniers siècles, on constate que ces différentes missions, ces différentes fonctions sont toutes remplies par les organisations que l'on peut analyser. Alors, il y a ces éléments invariants. Et il y a, je le disais, des mutations, des changements, certains à long terme, d'autres à court terme, qui se traduisent par un remaniement permanent des mécanismes mis en œuvre. L'élément fondamental pour comprendre de manière synthétique les grandes lignes d'un système financier, c'est au fond, me semble-t-il, de mettre en évidence la combinaison de modes de financement qu'il met en jeu. Je m'explique. Il y a, je vais y revenir dans une minute, un certain nombre de modes de financement fondamentaux qui se retrouvent dans des combinaisons variables d'un système de financement à l'autre. Eh bien, c'est ce mode de combinaison qui caractérise chaque système financier. Ces modes de financement fondamentaux, ces trois modes de financement fondamentaux, vous les connaissez tous, mais j'en rappellerai le principe. Il y a le mécanisme dit de l'autofinancement, le mécanisme de l'intermédiation financière et celui de la finance directe. Dans le mécanisme de l'autofinancement, vous le savez, chaque opérateur, chaque entreprise en l'occurrence, dégage un excédent sur son activité propre et réalloue cet excédent, réinjecte cet excédent dans son activité future. Par conséquent, il y a là une manifestation d'autonomie financière, puisque c'est le financement sécrété par son activité propre qui permettra de développer les activités à venir. Mais on voit aussi que ce mode de financement comporte une limite foncière, puisqu'il suppose, pour être efficace, que le rythme auquel chacun dégage les excédents corresponde précisément au rythme auquel il aura besoin d'engager des projets d'investissement ou des projets productifs. Or, il suffit de penser, par exemple, au cas des particuliers qui réalisent souvent des épargnes importantes alors qu'ils sont âgés, alors que leurs besoins les plus importants, je pense notamment à l'achat de biens durables ou à l'investissement en logement, sont évidemment ressentis à une phase beaucoup plus précoce de leur cycle de vie. On voit bien que, soumis à un régime d'autofinancement pur, la plupart des entreprises et des particuliers seraient obligés de renoncer à des projets d'investissement pourtant importants, ou au contraire, dans d'autres cas, seraient en présence d'excédents oisifs que finalement l'économie ne serait pas en mesure de valoriser. Je viens de situer les limites de l'autofinancement. Cela veut dire que l'autofinancement doit être complété par la contribution d'un mécanisme de financement externe dans lequel des opérateurs extérieurs peuvent établir des relations de financement en dépassant les limites de l'autofinancement. Et vous le savez, le financement externe s'opère soit selon le mécanisme de l'intermédiation, soit selon le mécanisme de la finance directe. Commençons, si vous le voulez bien, par le mécanisme de la finance directe. Dans la finance directe, un face-à-face s'établit sans médiation entre ceux qui ont des excédents et ceux qui sont en déficit, ceux qui ont un besoin anticipé excédant leurs ressources propres. Et par conséquent, l'un de ces deux acteurs accepte d'apporter ses fonds à l'autre qui en bénéficie. Et bien entendu, en contrepartie de cela, un contrat doit être établi, contrat qui se traduit par le fait que le bénéficiaire des fonds remet une reconnaissance de dette, c'est-à-dire un titre, c'est-à-dire la traduction du contrat de financement qui vient de s'établir. Alors, on voit que dans la finance directe, il y a l'efficacité du rapport immédiat entre un offreur de capitaux et un demandeur de capitaux, et il y a surtout un point sur lequel nous reviendrons largement par la suite, l'émission d'un titre financier, d'un document qui représente la reconnaissance de dette signée par celui qui a reçu les fonds. On peut dire que la finance directe, c'est la finance par émission de titres, par émission d'actifs financiers, mais il y en a d'autres dont je parlerai dans une minute. La finance directe fonctionne bien lorsque il y a des mécanismes efficaces qui permettent la rencontre entre les agents qui ont des excédents, ceux qui ont des déficits. Mais souvent, cette rencontre est impossible s'il n'y a pas une médiation, et plus précisément une intermédiation. Eh bien, le troisième mode de financement, c'est celui de l'intermédiation financière, c'est-à-dire celui dans lequel une institution, par exemple une banque, s'interpose entre les agents en excédent et les agents en déficit. Comme vous le savez, le rôle de cet intermédiaire, sa mission d'intermédiation, consiste à collecter des excédents auprès des épargnants, par exemple sous forme de dépôts, et à allouer ces fonds accumulés, ces fonds collectés, sous forme de crédit à des entreprises ou à des agents en général qui expriment des besoins de financement. Donc au fond, l'intermédiaire joue un rôle de collecte et de redistribution des excédents d'épargne. Alors, dans un pays qui n'aime pas beaucoup les intermédiaires, on pourrait penser que son rôle est au fond un rôle de simple redistribution. En fait, ce rôle est beaucoup plus important parce que, vous le savez, les intermédiaires ne se contentent pas de translater en quelque sorte à l'identique les fonds qu'ils collectent. Ils assurent ce que l'on appelle une transformation. En effet, la plupart des épargnants, et vous le savez, ce sont pour l'essentiel des particuliers, ont des excédents, ont une épargne qu'ils entendent conserver sous une forme liquide. Voyez le goût durable pour des placements à vue, comme le livret A qui demeure un des classiques indémodables de l'épargne française. Donc, les ressources d'épargne ont une orientation très forte vers des modes de collecte à court terme. Au contraire, les entreprises et éventuellement les autres acteurs qui souhaitent emprunter souhaitent le faire pour réaliser des projets d'investissement durable. Il est clair par conséquent qu'il y a à l'origine une distorsion entre la préférence temporelle des épargnants, des apporteurs de fonds, et les préférences temporelles des demandeurs de capitaux, des investisseurs. Eh bien, il appartient à l'intermédiaire financier de jouer un rôle de transformation, c'est-à-dire de transformer des ressources courtes en crédits longs, en financement long, en jouant tout simplement sur la loi des grands nombres. Puisque aussi bien chaque déposant entend pouvoir disposer de ses fonds à tout moment, mais grâce à la multiplicité des clients, eh bien, un intermédiaire financier peut espérer conserver une enveloppe de fonds durable et par conséquent, sans prendre de risques inconsidérés, il a la capacité de mobiliser des ressources réputées courtes pour financer des opérations longues. Alors, je viens de détailler de manière peut-être un peu longue ces trois mécanismes fondamentaux de financement. C'est sans doute un détour, mais ce détour va être utile parce qu'il va nous permettre, au fond, de nous livrer à une combinatoire extrêmement éclairante pour comprendre l'évolution des systèmes financiers dans les dernières décennies. Alors, pour faire de l'histoire relativement récente, je vous proposerai peut-être un retour en arrière rapide au XIXe siècle, mais je concentrerai mon analyse sur l'après-guerre. Je dirais que la tradition financière française a été marquée par des alternances entre deux types de combinaisons. D'une part, des systèmes combinant de manière prédominante de l'autofinancement et de l'intermédiation financière, c'est-à-dire de l'intermédiation bancaire pour faire court. Nous allons le voir, cette configuration correspond à ce qu'on a accoutumé d'appeler depuis quelques années une économie d'endettement. À d'autres moments, c'est une autre combinaison qui a prévalu, combinaison d'autofinancement et de finance directe. Et comme la finance directe met en jeu, je le rappelais tout à l'heure, l'émission de titres, eh bien, il s'agit alors d'un mécanisme qui donne toute sa place au marché financier, et on parle pour cela d'une économie de marché financier qui est ainsi différenciée de l'économie d'endettement. Donc, alternance entre des phases marquées par une économie d'endettement et des phases marquées par une économie de marché financier. Je vais essayer d'être un peu plus précis dans l'analyse de cette alternance. Alors, si on remonte au 19e siècle, on peut dire que l'économie d'endettement a été constamment concurrencée par l'économie de marché financier, en ce sens que, en même temps que les banques et l'intermédiation émergeaient, on voyait se mettre en place des mécanismes de marché financier efficaces. Mais ces mécanismes de marché financier étaient orientés de manière relativement déséquilibrée, puisque pour l'essentiel, ils étaient orientés vers l'achat d'obligations de la dette publique. Donc sur le marché financier, au fond, les principaux titres traités, c'était les titres de rente émis par l'État. Le souvenir des romans du 19e siècle vous rappellera que les héritières avaient alors des milliers de livres de rente inscrits sur le grand livre de la dette publique. C'était une des manifestations de l'économie de marché financier. Je ne sais pas si Balzac y songeait, mais comme vous le savez, il est extrêmement précis dans sa description des mécanismes financiers et patrimoniaux. Alors, on peut dire au fond que cette période du 19e siècle marque un équilibre incertain avec des alternances relativement heurtées entre les deux mécanismes. Il faut attendre 1945 pour que un équilibre durable s'établisse et dure pratiquement jusqu'au début des années 80. Cet équilibre est l'équilibre caractéristique de ce que je viens d'appeler une économie d'endettement. Alors, pour caractériser cette économie d'endettement, quelques mots sur deux éléments fondamentaux, les comportements d'épargne, les comportements de financement. On peut dire que, durant toute cette époque, l'épargne, et notamment l'épargne des ménages, est principalement orientée vers des dépôts auprès des institutions financières, notamment les banques et les caisses d'épargne. L'épargne est essentiellement liquide et elle bénéficie, dans un certain nombre de cas, vous le savez, de dispositions fiscales qui accroissent l'attrait pour ces placements. Le financement des entreprises subit évidemment les conséquences de cette orientation de l'épargne, puisqu'aussi bien les entreprises peuvent recourir largement à deux sources de financement seulement, leur propre autofinancement et l'appel au crédit bancaire. Alors, il faut rappeler également que durant cette période, on connaît, et notamment en France, des périodes d'inflation très rapides et que par conséquent, lorsque les épargnants, comme les entreprises, évaluent les taux d'intérêt qui sont appliqués à leurs opérations, ils les évaluent en termes nominaux, ce qui veut dire que, hors inflation, les épargnants reçoivent de fait une rémunération négative et que les entreprises qui s'endettent acquittent des coûts de financement également négatifs. On peut dire par conséquent que l'inflation a été un puissant mécanisme de propagation de l'économie d'endettement en créant l'incitation à ce qu'on a appelé l'effet de levier, c'est-à-dire finalement en encourageant les entreprises à charger autant qu'elles le pouvaient leur bilan en dette et notamment en dette bancaire. Alors, ce mécanisme, vous le constatez, marginalise totalement le rôle du marché financier. Alors, il a fallu attendre la fin des années 70 pour qu'un certain nombre de mesures modifient, bouleversent cet équilibre. Ces mesures ont démarré de manière relativement significative dès 78 avec un certain nombre de dispositions prises alors par René Monory, mais c'est dans les années 80, notamment à la suite d'une série de dispositions prises par Jacques Delors et Pierre Bérégovoy, qu'une véritable révolution financière s'engage et que nous basculons d'une économie d'endettement à une économie de marché financier. Pour faire court, je rappelle que durant les années 80, nous assistons à quatre séries d'évolutions. Premièrement, une extraordinaire diversification des outils, des instruments utilisés par la finance. Diversification des formes d'obligations, diversification, non pas des formes d'actions, mais des formes assimilables à des actions, par exemple des obligations à bon souscription d'actions, des titres participatifs, etc. Donc, multiplication des formes de titres. Deuxièmement, apparition de nouveaux titres. Les titres qui sont aujourd'hui traités couramment sous forme de contrats futurs ou d'options négociables. Troisièmement, de nouveaux marchés sont ouverts. Le MONEP, le MATIF, qui ont disparu aujourd'hui comme entité autonome et qui sont repris dans les mécanismes boursiers plus traditionnels. Vous le savez, par la suite, l'ouverture du second marché et du nouveau marché qui venait compléter les mécanismes boursiers traditionnels. Donc, de multiples révolutions, de multiples évolutions qui bouleversent la technologie financière et qui débouchent sur une réactivation des mécanismes de marché financier. Cela se traduit de manière assez rapide par une modification profonde des comportements d'épargne et des modifications, et par une modification également rapide des comportements de financement. Alors, on peut dire, là aussi pour faire bref, que cette période marque une évolution de l'épargne des produits liquides traditionnels vers des produits financiers plus complexes et notamment vers des actions. C'est à cette époque qu'on voit se réaliser des opérations de privatisation qui multiplient le nombre d'actionnaires. Vous le savez, nous sommes dans les dernières années montés jusqu'à 6,5 millions d'actionnaires. Nous devons avoir aujourd'hui environ 5 millions d'actionnaires individuels, même si tous ne sont pas actifs. Il y en avait 1 300 000 il y a seulement 20 ans. Donc, multiplication du nombre des actionnaires individuels, également augmentation de la part des actions dans le patrimoine des particuliers. Cette part doit représenter aujourd'hui environ 16%. Elle était dérisoire dans les années 70. Cette acquisition d'actions s'effectue par achat direct. On parle de gestion en direct de lignes d'action ou de titres. Mais vous le savez, cette période permet également la mise en place de mécanismes de gestion collective qui permettent aux épargnants de faire des apports à des fonds qui mutualisent finalement la charge de l'investissement et les risques de cet investissement. C'est le développement des fameux zinzins, des fameux investisseurs institutionnels, d'un côté les SICAV et les fonds communs de placement, et de l'autre les techniques d'assurance vie qui constituent très rapidement une collecte extrêmement importante. Alors vous le savez, aujourd'hui, on peut estimer à 4 400 milliards environ, ce sont des données de février 2000, le montant des actifs gérés par les OPCVM, donc fonds communs de placement et SICAV. On peut estimer environ à 4 200 ou 300 milliards les montants gérés par les entreprises d'assurance, dont peut-être 3 000 environ orientés vers l'assurance vie. Bien sûr, tous ces fonds ne sont pas orientés vers des investissements en actions, mais une part significative de ces montants s'orientent vers le marché financier sous forme d'obligations ou d'actions, et finalement, un montant variable selon les différents segments des activités d'investisseurs institutionnels s'oriente vers l'investissement action. On peut dire par conséquent que l'acclimatation de mécanismes boursiers s'est réalisée au cours de cette époque et a permis l'activation du marché financier à laquelle je faisais allusion. Alors, deux facteurs ont indiscutablement joué un rôle important. J'évoquais tout à l'heure les privatisations. Il faut y ajouter un certain nombre de mesures fiscales qui ont incité les opérateurs à acquérir dans des conditions souvent avantageuses des actions. Par ailleurs, un deuxième élément a joué de manière indiscutable, c'est la vitalité du marché des capitaux et ses performances, puisque sur la longue période, malgré les vicissitudes et les turbulences qui l'affectent, le marché boursier dégage une des performances les meilleures qui soient en matière de placement et en matière d'allocation du patrimoine. Songez par exemple que l'année dernière, le CAC 40 a pris 56%. Il est évident que très peu de modes d'allocation de l'épargne permettraient de réaliser de telles opérations. Alors, ceci affecte donc les comportements d'épargne. Cela affecte également la manière dont les entreprises se financent, dont elles recherchent les fonds dont elles ont besoin. Et les augmentations de capital se multiplient, ce qui ne veut pas dire que les entreprises ne recourent plus à l'emprunt bancaire, mais d'une certaine manière, toutes celles qui ont la possibilité d'accéder au marché financier privilégient l'augmentation de capital comme mode de financement. Alors, au terme de cette analyse, on pourrait avoir le sentiment que, finalement, la finance s'est développée en France de manière relativement harmonieuse et a permis finalement d'assurer une convergence quasi miraculeuse des comportements d'épargne et des comportements d'investissement. Alors je doute qu'une vision aussi idyllique vous convainque tous, et je n'essaierai pas de la faire passer puisqu'elle ne correspond pas à la réalité. Alors on peut dire que, en réalité, cette évolution qui comporte un certain nombre de réalisations importantes, notamment en termes de capacité de financement et d'endettement des entreprises, se traduit malgré tout par la persistance de difficultés préoccupantes. Alors, la première difficulté concerne sans doute la persistance de ce qu'on pourrait appeler l'étroitesse de la base capitalistique de l'industrie et de l'activité productive en France. On a souvent dit qu'en France, le capitalisme était un capitalisme sans capital. On veut dire par là que, globalement, l'ensemble des apports en capitaux propres dont les entreprises bénéficient n'est pas à la mesure de leur projet de développement et de leur projet d'investissement. Alors, cette situation est évidemment préoccupante puisqu'elle constitue un facteur de limitation d'un certain nombre d'activités productives. Elle comporte également un effet défavorable dans les mouvements de concentration dont Jean-Marie Chevalier parlait hier. En effet, le fait de disposer d'une base capitalistique faible place les entreprises concernées dans une position de relative vulnérabilité lorsqu'un certain nombre de grandes manœuvres se déroulent, et notamment lorsque des restructurations se présentent. Comme vous le savez, des mécanismes tels que les offres publiques d'achat permettent aux entreprises qui disposent de capitaux propres importants et de liquidités soit de faire des acquisitions en achetant en liquide des parts importantes du capital des entreprises qu'ils convoitent, auquel cas il y a une prise de contrôle en cash, en apport liquide, ou bien, deuxième scénario, de proposer des échanges d'actions et par conséquent d'acquérir, sans avancer de liquidité, mais en proposant des échanges de titres, les entreprises cibles dont ils souhaitent s'emparer. Alors, l'activité de fusion-acquisition est suffisamment intense pour que je n'insiste pas sur ces mécanismes, ils vous sont bien connus, mais il est clair que les entreprises qui disposent d'une base capitalistique faible sont dans une position défavorable dans ce jeu que l'on a qualifié de merger mania, de folie des fusions. Alors, bien sûr, la base capitalistique des entreprises françaises a été indiscutablement élargie au cours des dernières années, mais elle demeure relativement étroite. Vous le savez sans doute, la capitalisation boursière de la Bourse de Paris atteint environ un peu plus de 10 000 milliards, 10 500 milliards. Or, si on essaie d'évaluer la base durable que l'épargne française peut mobiliser en regard de ses avoirs, et donc pour contrôler ses avoirs, eh bien, on peut constater que les actionnaires individuels représentent des avoirs qui sont estimés à 1 000 milliards de francs. Sans doute, les investisseurs institutionnels placés en actions totalisent-ils quelque chose de l'ordre de 2 500 à 3 000 milliards. Il y a donc une capacité de mobilisation durable de 4 000 milliards face aux 10 500 milliards de la capitalisation. Ce qui veut dire qu'une grande partie de la capitalisation est virtuellement ouverte à des acquisitions effectuées par des investisseurs non résidents, comme on dit. Alors, vous le savez, c'est dans cette brèche que s'engouffrent un certain nombre d'investisseurs non résidents, et notamment les fameux fonds de pension, notamment américains, qui ont acquis une part notable de la capitalisation boursière sur la Bourse de Paris, puisque, vous le savez, on évalue à près de 40% la part qu'ils détiennent. Ce qui veut dire que les plus beaux fleurons de l'économie française ont, d'une certaine manière, une base actionnariale qui peut, dans de nombreux cas, être représentée à titre principal par des investisseurs institutionnels d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche. Alors, ceci pose évidemment un problème en ce qui concerne l'assise durable du centre vital d'intérêt de chacune de ces entreprises. Et il est clair que, tant que la base capitalistique domestique reste étroite, eh bien, cette vulnérabilité des entreprises françaises continuera de s'affirmer. Alors, cette une première préoccupation que j'ai exprimée principalement à propos des entreprises cotées. Mais vous le savez, il y a 1 million d'entreprises cotées au grand maximum sur les bourses françaises, sur la bourse française. Or, la France compte 2 400 000 entreprises. Cela veut dire que, outre l'élite des entreprises cotées, il y a l'élite des entreprises non cotées, c'est-à-dire des centaines de milliers, des millions d'entreprises qui, elles, n'accèdent pas au marché financier. Eh bien, comme vous l'imaginez, les difficultés de financement que rencontrent les entreprises cotées se retrouvent en quelque sorte démultipliées et amplifiées dans le cas des entreprises non cotées. Il y a également le cas des créations d'entreprises. Vous le savez, depuis une décennie, le nombre de créations d'entreprises plafonne. Nous avons eu un frémissement en 1999, puisque nous sommes passés d'un palier de 166 000 créations sur plusieurs années à 169 000 créations, 3 000 de plus, vous voyez, au cours de l'année 1999. On estime que pour contribuer plus activement à la résorption du chômage, il faudrait arriver à 200 000 créations, compte tenu de l'impact sur l'emploi. En gros, les 166 000 créations ont permis la création de 540 000 emplois en 1999. On voit donc que la création de ces entreprises pose un certain nombre de problèmes, des problèmes culturels, des problèmes d'éducation, des problèmes d'acclimatation d'esprit d'entreprise, mais la création pose aussi des problèmes de financement. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a, dans un très grand nombre de cas, des besoins très limités qui sont en cause dans la création de telles entreprises, puisque on évalue à 80% le nombre d'entreprises qui se créent avec 50 000 francs de mise de fonds. Il est clair que le financement de ces entreprises-là suppose également l'existence d'un mécanisme de financement qui vienne renforcer leur base capitalistique. Alors, face à cette étroitesse de la base capitalistique, un certain nombre d'évolutions, vous le savez, ont été proposées, et certaines d'entre elles ont été mises en œuvre pour élargir la base sur laquelle s'appuient les entreprises françaises. Parmi ces évolutions, quelques-unes significatives, l'épargne salariale. Vous le savez, un grand nombre de salariés bénéficient aujourd'hui de formes d'épargne salariale qui leur permettent, par des mécanismes divers, par exemple grâce à l'utilisation des fonds d'intéressement ou de participation, de souscrire à des parts de fonds communs de placement d'entreprise dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise. Ces souscriptions s'effectuent souvent dans des conditions fiscales avantageuses et avec un abondement de la part de leur entreprise. Eh bien, une partie des fonds ainsi collectés sont investis en actions. C'est le fameux actionnariat salarié qui connaît aujourd'hui un développement important, puisqu'on évalue à 1 million environ le nombre de salariés des entreprises du CAC 40 qui bénéficient de telles dispositions, avec des patrimoines non négligeables, puisque je crois que le patrimoine moyen était de 149 000 francs au début de cette année. Donc, il y a là un mécanisme significatif, mais ce mécanisme, à l'heure actuelle, doit représenter en encours sensiblement 100 milliards de francs. On est très loin des 10 500 milliards de la capitalisation boursière. Un autre exemple de dispositif mis en place a concerné les fonds de capital risque orientés vers la création d'entreprises. Là encore, ce sont des fonds qui permettent de mobiliser des ressources qui sont prêtes à s'investir en prenant des risques importants, notamment en liaison avec les lancements de start-up. Et puis, on a beaucoup parlé, évidemment, des fonds de pension. Alors, ces fonds de pension, vous en connaissez le mécanisme, ils consistent pour des salariés à assurer des versements réguliers et volontaires qui leur permettent de se constituer un capital, capital qui engendrera par la suite la retraite venue, par exemple, le versement d'un complément de retraite. Alors, ce mode d'épargne représente indiscutablement deux caractéristiques qui sont en rapport avec les difficultés capitalistiques dont je parlais. Premièrement, il s'agit d'une épargne de très long terme, puisque cette épargne est conçue dans une perspective de retraite, elle a un horizon de gestion très long. Deuxièmement, c'est une épargne qui se prête à des formes de mutualisation. Après tout, lorsque chacun d'entre nous essaie d'acquérir une résidence principale, entre autres pour assurer ses vieux jours, il met ses œufs, si j'ose dire, dans le même panier, puisque une part très importante de son patrimoine va être liée à un bien. Au contraire, des fonds gérés collectivement permettent de diversifier les risques et par conséquent de mieux résister aux fluctuations du cours des titres ou du cours des actifs. Il se trouve enfin que, à la fois par leur volume et par leur maturité, ces fonds auraient vocation à être investis de façon durable dans l'entreprise. Alors, il est clair que le débat sur les fonds de pension a été engagé en France dans des conditions qui ne lui permettent pas d'avancer dans des conditions sereines, ou en tout cas suffisamment sereines. En effet, il a été posé ce débat au moment même où nous parlions de la crise de notre système de retraite par répartition. Il a donc été perçu de façon irrésistible par l'opinion comme un substitut, comme une alternative à la retraite par répartition. Donc, l'alternative diabolique répartition ou capitalisation était réunie et il est clair que dans ces conditions, tous ceux d'entre nous qui sont attachés à des valeurs de solidarité liées au concept de répartition pouvaient en éprouver quelques gênes. Pourtant, si on y réfléchit bien, rien n'oblige à considérer les fonds d'épargne retraite comme des substituts au système de retraite par répartition. Il s'agit tout d'abord de dépôts volontaires, facultatifs. À ma connaissance, aucun partisan des fonds de pension ou des fonds d'épargne retraite n'a demandé qu'on supprime le caractère obligatoire des cotisations qui permettent aujourd'hui d'alimenter les fonds de la retraite par répartition. Par conséquent, si des individus sont prêts, au-delà de leurs obligations, de leurs versements obligatoires qui contribuent aujourd'hui au financement des retraites par répartition, à abonder en outre des fonds de retraite par capitalisation par le système des fonds d'épargne retraite, pourquoi les en empêcher? Bien sûr, à la clé, il y a la revendication d'avantages fiscaux. Mais vous le savez, le système financier et le système patrimonial français abondent en avantages fiscaux qui ont été octroyés dans des conditions parfois infiniment plus discutables que celles qui sont en cause dans l'affaire que nous discutons. Enfin, il est clair qu'il y a une gêne pour nous tous à l'idée d'associer des fonds destinés à assurer des ressources de retraite, finalement, aux aléas de la bourse. Mais c'est là que les mécanismes de la diversification permis par des fonds gérés collectivement arrivent à limiter considérablement les risques et, je le répète, permettent des réalisations de performances infiniment supérieures à toutes sortes de décisions que nous pouvons prendre individuellement sur des budgets limités quand nous essayons de répartir de façon un peu équilibrée notre patrimoine. Alors, il est clair enfin que souligner certains avantages du système de retraite par capitalisation et des fonds de pension ne revient pas à nier la nécessité de mécanismes correctifs. Par exemple, de mécanismes de mutualisation qui permettent d'éviter qu'un système de retraite à multiples vitesses se mette en place. Et j'ajoute qu'il ne saurait être question également de proposer une polarisation des investissements des particuliers seulement vers la bourse. Il est clair que là aussi, la gestion d'un patrimoine qui permette de résister aux risques exige une diversification. C'est d'ailleurs à peu près ce que font spontanément les Français, puisque sur des données récentes, 40% environ du patrimoine est détenu sous forme immobilière, de résidence principale notamment, 32 ou 33% sous forme d'actifs financiers, le reste sous des formes diverses. Il y a d'emblée l'adoption d'un comportement de diversification. Alors, j'ai longuement détaillé les mécanismes et les enjeux du système de financement en montrant comment la relation entre l'épargne et le financement de l'activité productive représente l'élément crucial et comment un basculement s'est opéré d'une économie d'endettement à une économie de marché financier. Je voudrais conclure cet exposé en insistant sur l'impact de ces évolutions sur les modes de contrôle des entreprises, ou pour employer la terminologie qui a cours aujourd'hui, sur les modes de gouvernement ou de gouvernance d'entreprise. Alors, il est clair que quand on parle aujourd'hui en France de gouvernance, on a en tête un certain nombre de dispositions. Par exemple, le fonctionnement du conseil d'administration des entreprises. On souhaite que la composition de ces conseils soit plus ouverte, qu'il y ait moins de cumul de mandats. On souhaite que le professionnalisme dans le fonctionnement des conseils leur permette de jouer un rôle de contrôle et de vigilance qu'ils n'ont pas toujours dans le passé, qu'ils n'ont pas toujours joué dans le passé, etc. En d'autres termes, on insiste beaucoup sur le côté institutionnel du gouvernement d'entreprise. Mais en réalité, au-delà de l'aspect institutionnel, l'élément fondamental est un élément sociologique, un élément de jeu des acteurs qui sont mis en cause dans une relation d'entreprise. Alors, bien évidemment, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, je dirais quelques mots de la relation entre actionnaires et dirigeants. C'est du reste un des thèmes qui avait été mis en avant dans le titre annoncé de cette conférence. Il est clair que l'évolution vers une économie de marché financier a donné un rôle croissant aux fameux investisseurs boursiers, c'est-à-dire aux actionnaires. On a pu parler ainsi du retour des actionnaires. En effet, dans le passé, le financement boursier était marginal pour les entreprises. Celles-ci n'avaient donc, au fond, aucun besoin de se préoccuper de ménager ou de favoriser leurs actionnaires. Dès lors que l'investissement boursier devient significatif, il est nécessaire pour elles de ménager leurs actionnaires, de leur apporter des informations et de leur fournir une rémunération. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la prise en compte de la demande de rémunération des actions est devenue une contrainte qui est durement ressentie par les dirigeants. On peut dire que c'est un des mécanismes de contrôle les plus rigoureux qu'ils exercent sur eux. Mais au-delà de cette relation entre actionnaires et dirigeants, je voudrais souligner que la relation entre l'entreprise et d'autres acteurs, entre les dirigeants et d'autres acteurs, joue manifestement un rôle de plus en plus important. Pour conclure, je voudrais citer quelques exemples de ces nouveaux modes de régulation qui existent, qui se renforcent et qui sont un contrepoint important à l'influence actionnariale qui est le plus souvent mise en avant. Deux exemples, si vous le voulez bien. Premier exemple, Microsoft. Voilà une entreprise dont vous connaissez tous le leadership mondial. Elle est remise en cause par les autorités fédérales américaines, sa suprématie est mise en cause par les autorités fédérales américaines au nom du respect des règles de la concurrence. Il est question, vous le savez, de la scission de cette entreprise. On voit bien qu'un mécanisme de régulation s'est mis en place qui concernait la vigilance des autorités fédérales américaines et de la justice américaine sur le respect d'un certain nombre de règles du jeu concurrentiel. Un autre exemple, eh bien, celui du respect de l'environnement, celui du respect des équilibres écologiques. Songez par exemple qu'hier, une grande entreprise pétrolière a vu son assemblée générale perturbée par des manifestants qui, en l'occurrence, avaient acheté quelques actions pour participer à l'assemblée générale et qui ont rappelé la responsabilité de l'entreprise dans une affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Alors, tout cela me conduit à dire que, certes, le retour de l'actionnaire est une réalité marquante de la finance contemporaine. Mais en réalité, des mécanismes de régulation complexes, mettant en jeu de nombreux acteurs, la justice, les médias, la société civile au travers de nombreuses associations, les autorités administratives indépendantes, tout cela concourt à créer une espèce de décentralisation de la fonction de régulation. Cela veut dire que désormais, certes, la prise en compte des exigences actionnariales est une nécessité, mais elle ne peut pas nier les intérêts légitimes d'un certain nombre d'autres parties prenantes. C'est ce que un certain nombre d'auteurs anglophones traduisent en disant « il y a les stockholders, les actionnaires, mais il y a aussi les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes, et notamment des partenaires dont les intérêts légitimes ne peuvent être foulés aux pieds ». Cela veut dire que la finance ne peut pas s'abstraire du jeu social. Merci. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Maintenant, nous passons au débat. 20 minutes de débat. Donc, une question au milieu à gauche, s'il vous plaît. Les micros. Et ensuite en haut. Attendez, excusez-moi monsieur, on va vous apporter un micro tout de suite.
Vous est-il possible de caractériser le comportement des fonds de pension en tant qu'actionnaire par rapport à celui des autres actionnaires? Je parle critères de cession de titres et intervention dans le gouvernement de l'entreprise.
Alors, d'après ce qui est documenté, il semble que, en matière d'horizon de gestion, les fonds de pension ont un horizon de gestion relativement plus long que beaucoup d'autres opérateurs. Puisque, je pense par exemple aux fonds de pension américains, ils ont clairement un horizon de gestion qui est pluridécennal. C'est donc un horizon de gestion long qui n'induit pas nécessairement un zapping, une volatilité extrême. Ceci étant dit, dans les dernières années, la flambée d'un certain nombre de performances boursières, et notamment le développement des fameuses start-up de haute technologie, a pu affecter ce comportement. Mais on peut dire que, dans l'ensemble, leur gestion patrimoniale n'est pas court-termiste, elle n'est pas responsable de la volatilité des capitaux que l'on relève dans un certain nombre de situations. En matière de gouvernement d'entreprise, je crois qu'il faut le souligner, ce sont des interlocuteurs exigeants, et exigeants sur deux points principaux, exigeants en termes de rémunération, bien sûr, exigeants également en termes d'information. On a pu voir la surréaction du marché à des avertissements sur résultats, les fameux profit warnings, ou à des ambiguïtés de communication. Il est certain que le niveau d'exigence de ses partenaires est extrêmement élevé et doit être considéré aujourd'hui comme une contrainte forte pour les dirigeants d'entreprise qui aspirent à avoir un statut boursier satisfaisant. Je rappelle que désormais, le fait de mener des campagnes d'explication auprès de gestionnaires de ces fonds ou auprès des analystes financiers ou auprès de la presse financière sont devenues une contrainte extraordinairement lourde pour les dirigeants. Un dirigeant d'une grande entreprise française qui prend sa retraite prochainement, si ce n'est pas déjà fait, signalait que sur son agenda, il y avait 250 rendez-vous avec des analystes financiers ou des gérants au cours de l'année passée.
Merci beaucoup.
Oui.
Monsieur bon. En haut à gauche.
Oui, je suis ici.
Tout en haut.
En haut. Là, vous avez fait un exposé très élogieux de la situation boursière, mais je suis quand même étonné que tout au long de votre exposé, vous n'ayez pas prononcé une seule fois le mot de spéculation boursière. Or, cette spéculation, elle est évidente, on en voit son action tous les jours. On peut se rappeler l'affaire Eurotunnel. Quand une entreprise comme France Télécom, sur une parole plus ou moins malheureuse de son PDG, voit brusquement ses actions dégringoler de 40%, à l'inverse, Michelin, à la suite d'une concentration, voit les siennes augmenter de 20%. Les 40 et 20% mis en jeu dans ces opérations représentent tout simplement de la spéculation et dans une certaine mesure, on pourrait presque appeler ça de l'escroquerie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je n'ai pas employé le mot spéculation, mais j'ai parlé, je crois, d'un certain nombre de points que vous soulevez, notamment de la concomitance troublante entre des annonces de restructuration et des phénomènes de valorisation. Au début de mon intervention, j'ai souligné entre autres cet exemple précis. Alors, pourquoi n'ai-je pas employé le mot spéculation? Parce que je crois que le mot spéculation est un mot qui induit la confusion, je le dis franchement. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le mécanisme boursier, comme beaucoup de mécanismes de marché d'actifs, c'est vrai pour l'immobilier, c'est vrai pour d'autres choses, c'est vrai pour le marché des grains, c'est vrai pour le pétrole. Quand il y a des marchés sur lesquels les prix des biens échangés connaissent des fluctuations fortes, et je vais revenir sur l'explication de ces fluctuations, on observe sur des périodes qui peuvent être très courtes des oscillations importantes du prix. Alors, ces variations, on peut chercher à les mettre à profit. Je dirais que dans une perspective offensive, on peut essayer d'y gagner. Mais à supposer que vous ayez une horreur des gains éventuels liés à ce type d'opération, vous chercheriez légitimement à vous en prémunir, à vous en protéger. Or, comment se protège-t-on contre les oscillations des prix d'actifs ? Eh bien, en se couvrant. Et en se couvrant, on met en jeu les mêmes mécanismes. Alors, ces mécanismes, quels sont-ils ? Eh bien, ce sont tout simplement les mécanismes de variation des valeurs d'actifs. Quand on parle de spéculation, il s'agit d'une attitude qui cherche à tirer parti de l'oscillation, de la variation à court terme de la valeur d'un actif. Pourquoi cette spéculation est-elle possible ? C'est parce que, vous le savez, un certain nombre d'actifs sont marqués par une rareté foncière. Il est clair que les appartements familiaux de 120 mètres carrés dans le 6e et le 7e arrondissement ne sont pas offerts en quantité illimitée et ne sont pas reproductibles à l'infini sur le marché immobilier parisien. Il y aura donc des oscillations fortes du prix de ces actifs-là dès lors qu'un certain nombre d'acquéreurs souhaiteront les convoiter. C'est la même chose pour des produits extractifs, par exemple. C'est la même chose pour les œuvres d'art. Et c'est la même chose pour les titres. Donc, dès qu'un bien est affecté par une limitation a priori de l'offre, soit pour des raisons naturelles, soit pour d'autres raisons, son prix est sujet à des fluctuations que l'on ne trouve pas dans l'industrie traditionnelle où les biens sont reproductibles. Alors, je le répète, le problème de la spéculation, c'est qu'elle nous place dans une situation qui est sans issue sur le plan de l'analyse. Si on récuse ce type d'opération, il ne faut pas s'en mêler, bien sûr. Mais si on doit en faire, par exemple, si nous sommes exportateurs et que nous devons opérer en devises étrangères, nous sommes obligés, par exemple, d'acheter en dollars, ou comme une de nos grandes entreprises qui a connu quelques difficultés sur ce point, nous vendons en dollars et nous craignons des pertes de change. Si nous sommes obligés de le faire, eh bien, même si nous ne voulons pas spéculer, nous sommes obligés de nous protéger. Et je le répète, se protéger, c'est par exemple prendre des couvertures à terme, c'est prendre des options qui vont chercher à annuler le risque de perte en créant une chance de gain. Par conséquent, le terme de spéculation est en l'occurrence un terme qui n'aide pas à analyser les choses. Alors, je vous propose une alternative. Je pense que, compte tenu des mécanismes d'alimentation, je ne vous la propose pas à vous si ça ne vous intéresse pas, je la propose à l'auditoire. Quand on parle de spéculation, je le répète, on vise un certain nombre de titres qui sont soumis à des fluctuations. L'alternative, c'est un mode de régulation. Alors, ce mode de régulation peut porter, par exemple, sur le déroulement des transactions. Il peut porter sur la qualité de l'information qui est communiquée. Il peut se porter sur la défense des intérêts des minoritaires, etc. Quand on voit, par exemple, le nombre de mises en examen pour délit d'initié, pour diffusion de fausses informations, etc., j'ai le sentiment qu'il y a des mécanismes de régulation qui sont à l'œuvre. Ils n'évitent sans doute pas tous les scandales et tous les dérapages, mais ils existent et j'ai le sentiment que la force de l'opinion conduit plutôt à en amplifier la portée.
Merci beaucoup. Monsieur en haut,
oui. Vous avez évoqué et décrit le phénomène de la prise de contrôle des entreprises, les grandes entreprises françaises du CAC 40 au travers des fonds de pension. Il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a beaucoup d'entreprises moyennes qui passent dans la main des étrangers, et ça on le sait moins.
Absolument.
À aucun moment vous n'avez pas eu le temps, évoqué la question de l'orientation qui est faite vers le financement de la dette publique de l'État français, ce qui est un choix implicite et qui probablement a des répercussions sur tout le sujet que vous avez élaboré. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette question qui va avoir de l'importance pour l'avenir de la France ?
Oui, je vous remercie des deux aspects de votre intervention. En ce qui concerne le premier point, je soulignerai que on sous-estime beaucoup le rôle d'un grand nombre d'entreprises qui sont d'ailleurs parfois importantes en dimension. Je pense par exemple à des entreprises à base individuelle ou familiale qui constituent le tissu profond de l'économie. Et vous avez raison de souligner que, par exemple, un grand nombre de transmissions manquées se traduisent par des acquisitions, par des non-résidents, et il y a là quelque chose d'extrêmement important pour la déperdition d'une partie du tissu économique de notre pays. Donc ceci je tiens à le souligner. Je vous signale qu'un certain nombre de recherches se mettent aujourd'hui en place sur justement des formes d'organisation des entreprises autres que les entreprises cotées. Je pense par exemple aux entreprises à base familiale. Alors, sur le deuxième aspect de votre intervention, excusez-moi, vous avez souligné au fond ce qu'on appelle, chacun le sait, l'effet d'éviction. Au fond, l'État, lorsqu'il dégage un déficit des finances publiques, a besoin de financer ce déficit, il émet des emprunts, et compte tenu de la qualité de la signature de l'État, il y a souvent une prime donnée au titre de la dette publique et par conséquent, à contrario, une éviction pour les titres privés. Il est certain que les prélèvements opérés par l'État ont joué, dans une certaine mesure, un rôle d'éviction. Alors, je dois dire que dans les dernières années, ce rôle est peut-être un rôle qui joue de façon moins marquante. Alors, bien sûr, il contribue à restreindre ce prélèvement la base capitalistique des entreprises, puisqu'au fond, une partie de l'épargne financière à long terme se trouve orientée vers le financement du déficit public au lieu de l'investissement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit des substituts totaux, et je ne suis pas sûr que, par exemple, un certain nombre d'organismes de placement collectif en valeur mobilière ont des contraintes d'affectation qui les conduisent à acquérir des obligations publiques. Bien sûr, on pourrait modifier cette réglementation-là, mais on voit bien que, sauf modification de cette réglementation, la diminution des prélèvements publics n'entraînerait pas nécessairement une orientation plus grande vers des fonds privés. Il reste que cet effet de prélèvement existe et il est certain qu'il soulève un problème qui, par exemple, est dépassé aux États-Unis, puisque le fait que le budget américain soit retourné à l'équilibre et qu'il y ait une politique de remboursement de la dette publique permet de libérer des fonds qui se trouvent effectivement mobilisables sur d'autres fronts et notamment sur le front boursier.
Merci beaucoup. Monsieur à droite, puis monsieur à gauche.
Si on ne regarde que l'intérêt des particuliers, est-ce que celui-ci ne doit pas investir de la façon suivante ? Suppression des intermédiaires qui prennent leurs bénéfices, c'est normal, dont en particulier les banques, mise sur le long terme pour éviter justement les spéculations, grande diversification, et à ce moment-là, peut-être n'est-il pas, achat d'actions étrangères en même temps que d'actions françaises, donc grande diversification internationale, et à ce moment-là, peut-être qu'on ne doit pas être trop attiré par des carottes fiscales comme le PEA ou des procédés qui sont des procédés très sophistiqués comme les marchés du MONEP et du MATIF où le particulier ne peut pas se débrouiller.
Écoutez, dans notre pays, on n'aime pas beaucoup les intermédiaires en général. Je défendrai tout de même les intermédiaires financiers parce que, bien sûr, quand on est France Télécom, on n'a pas besoin d'intermédiaires pour trouver des fonds, mais comme vous le savez, nous parlions tout à l'heure des petites et moyennes entreprises, la plupart d'entre elles n'ont aucun espoir de parvenir à convaincre directement des épargnants d'acquérir leurs titres et d'entrer dans leur capital ou de souscrire, par exemple, des titres de dette qu'elles émettraient. Donc, il n'y a pas de substitut à l'intermédiation financière pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Du reste, c'est un des problèmes que j'ai dû élaguer compte tenu de la durée qui m'était impartie, mais j'aurais souhaité parler du problème des PME pour lesquelles la question de l'accès au financement bancaire demeure un problème lancinant. Donc, ne crions pas à rose sur les intermédiaires, ils jouent un rôle. Et il me semble que précisément, l'intérêt de la configuration que nous connaissons aujourd'hui, c'est qu'elle permet un système qu'on pourrait qualifier de multipolaire, dans lequel la finance directe, avec la pression qu'elle exerce en termes de gouvernance, s'est amplifiée. L'intermédiation est désormais concurrencée. Elle est même sur la défensive. Cela conduit sans doute à faire plus d'efforts, par exemple de services à la clientèle. Et puis, il y a bien entendu aussi l'autofinancement. C'est donc sans doute un système comportant une combinaison de modes de financement qui est le système le plus solide, le plus robuste et le plus apte à résister aux risques. Alors, faut-il acheter des titres étrangers ? Bon, je crois qu'il faut rappeler que l'action est un produit qui peut être extrêmement dangereux. Tout à l'heure, on a parlé de spéculation. On parle beaucoup des gens qui gagnent, on ne parle jamais des gens qui perdent. Or, sur des marchés à somme nulle, sur des jeux à somme nulle, ce que gagnent les uns est perdu par d'autres, en tout cas payé par d'autres. Par conséquent, l'action est un placement complexe, technique, risqué, l'action étrangère un peu plus. Je pense que pour beaucoup d'actionnaires, le recours à des solutions de placement collectif est sans doute préférable à un jeu boursier qui ne permettrait pas, à l'échelle d'un portefeuille limité, de réaliser toutes les possibilités de diversification et de réduction des risques.
Merci. Trois dernières questions rapides, merci.
Vous parlez des risques. Dans votre introduction, vous avez parlé de ces nouveaux exaltés de création des start-up. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces entreprises qui ne sont que virtuelles dans leurs espérances ?
Alors, je vous remercie de poser cette question parce que effectivement, elle permet sans doute de faire une mise au point sur un sujet qui est aujourd'hui assez controversé. Il me semble que nous, les start-up et leurs animateurs ont connu, il y a quelques mois, un engouement extraordinaire. Je me rappelle un journal financier qui avait, de bonne qualité d'ailleurs, mais qui avait consacré un numéro spécial aux 100 qui ont fait fortune en 1998-99. Bon, et on voyait effectivement un certain nombre de Wonder Boys ou Girls qui avaient accumulé des sommes mirifiques. Bon. Cet engouement, il tend à lui succéder une espèce de remise en cause à l'emporte-pièce. Je dirais, dans cette situation, il faut raison garder. On a sans doute tort de donner une espèce de prime d'emblée indifférenciée à tous les porteurs de start-up. Pour prendre la terminologie en vigueur dans le domaine, ce qui prime, c'est le business plan. C'est-à-dire qu'au fond, après une espèce de mansuétude générale et peut-être un peu d'aveuglement pour ce type d'entreprise, on en revient au business plan. La nouvelle économie doit faire ses preuves. Prenez par exemple le nombre de business plans fondés sur l'annonce de gains publicitaires mirifiques. Compte tenu de la capacité d'absorption du marché publicitaire, on ne voit pas comment des petits bandeaux installés dans un coin d'écran vont permettre de fonder le business plan d'un certain nombre d'entreprises. Donc, il y a clairement la nécessité d'aller plus loin dans l'analyse des perspectives économiques. On ne l'a pas fait assez dans le passé. Maintenant, ce n'est pas parce que ce type de valeurs connaissent de sacrées turbulences sur les marchés qu'il faut les remettre en cause. Je reste convaincu que la notion d'innovation a un sens, que beaucoup d'idées extrêmement importantes sont développées. Par exemple, dans les universités, on met en place un certain nombre d'incubateurs. Je crois qu'il y en a 27 de lancés, et j'espère qu'un certain nombre de chercheurs, grâce à l'aide d'experts, arriveront à viabiliser des projets. Je suis persuadé qu'il y en aura. Pour peut-être circonscrire tout de même le champ du problème, puisque les start-up ont donné lieu à une littérature inflationniste, je rappelle qu'il y a 4000 créations d'entreprises de ce type et 169 000, je vous le disais tout à l'heure, créations d'entreprises en général. Donc, je crois qu'il y a une certaine disproportion entre l'écho médiatique de ces créations et leur nombre. Il reste que beaucoup d'entre elles développent des pistes importantes qu'elles pourront mener à bien elles-mêmes ou pour lesquelles elles seront sans doute rachetées et permettront à d'autres entreprises de revivifier l'innovation dans ce qu'elle avait de porteur dans un cadre économique plus robuste et plus réaliste.
Merci beaucoup. Monsieur à gauche, avant-dernière question.
Monsieur, ici. Je voudrais revenir sur ce que je rappellerais l'excès de pouvoir des actionnaires, à savoir, vous avez décrit que les fonds de pension américains, en France comme aux États-Unis, demandent aux grandes entreprises cotées une rentabilité du capital de 15% par an, et tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que ça peut amener beaucoup de dirigeants d'entreprises à sacrifier le court terme contre le long terme et préparer des lendemains qui ne chanteraient pas et leur faire prendre des décisions de gains à court terme qui sacrifient totalement le long terme. Je voudrais avoir votre opinion à ce sujet. Oui.
Alors, je pense qu'effectivement, le fameux taux de rendement, c'est le ROE, le Return on Equity, qui est mis en avant, le fameux taux de 15%, apparaît aujourd'hui comme une espèce de norme qui est imposée aux dirigeants et qu'ils cherchent à faire passer dans leur action. Je pense que ce taux n'a pas de fondement économique totalement satisfaisant. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des économies qui connaissent des taux de croissance, mettons à 3 à 5% dans la plupart des pays comparables à la France. Bon. Nous avons par ailleurs des gains de productivité qui sont de l'ordre de 3 ou 4%. On ne voit pas comment, sur ces fondamentaux-là, on peut chevaucher une vague qui assure 15% de rentabilité à long terme pour les projets d'investissement. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'il y a un effet malthusien dans l'affichage de tels objectifs. Bon, cela dit, il y va maintenant de la rhétorique et du discours managérial. C'est donc devenu une espèce de moment incontournable dans la communication des entreprises. Je voudrais cependant limiter peut-être un peu la portée de cette observation. Et si vous m'excusez, je vais donner un développement un peu technique. On vous dit par exemple qu'une entreprise a un multiple, c'est-à-dire un rapport court-bénéfice, mettons de 30, enfin, ou de 40, c'est plus facilement divisible. Comme vous le savez, un rapport court-bénéfice de 40 est très favorable, puisque la moyenne doit se situer probablement aux alentours de 20 pour les entreprises traditionnelles. Dire qu'on a 40, ça veut dire que les actionnaires acceptent de payer pour un bénéfice de 1, 40 de prix de l'action. D'accord ? Cela veut dire, si on retourne notre multiple, qu'ils acceptent un rendement de 1 sur 40 pour les niveaux actuels de rentabilité. Alors en réalité, quand vous avez des multiples de cet ordre, vous avez finalement une espèce d'inversion de la logique. Le coût du capital appliqué dans le calcul économique factuel par les actionnaires est probablement moins pénalisant que les 15% affichés. Alors, donc les choses sont sans doute plus complexes, mais il est certain que l'affichage de taux aussi élevé pose un problème de soutenabilité. Alors, en tout cas, c'est ma conviction, je n'ai pas une étude économétrique à vous sortir de mes poches, mais c'est une conviction.
Merci beaucoup. Dernière question, monsieur à droite.
Je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion qui était de dire que la finance ne devait pas s'abstraire du débat social. Ben justement, j'ai une question à ce niveau-là. Vous ne pensez pas qu'à la manière de l'autogestion qui est bonne pour les entreprises, c'est un débat un autre, est-ce qu'il ne serait pas possible de considérer que l'autofinancement à l'état pur, il serait un moyen de lutter contre la spéculation ?
Alors, tout d'abord, le problème de l'autofinancement, c'est qu'il faut que vous en dégagiez et qu'il faut que vous ayez la chance d'avoir une activité dans laquelle le rythme auquel vous dégagez de l'autofinancement corresponde au rythme auquel vous avez des besoins qui s'expriment. Alors, dans une économie de subsistance ou d'autoconsommation, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez acheter des équipements, si vous devez acheter des machines, il faut que votre autofinancement ait la chance de coïncider avec le rythme auquel vous aurez besoin d'acquérir vos machines pour ne pas, en quelque sorte, être évincé du marché. Parce qu'on est quand même dans une économie d'échange au bout du compte. Et il y a, au bout du compte, par exemple, la nécessité de vendre des marchandises sur un marché sur lequel il importe de garder une position. Alors, cette contrainte est une contrainte forte. Est-ce que les autres mécanismes de financement induisent nécessairement la spéculation ? Non, ils créent des rapports complexes, et notamment des rapports d'influence, de contrôle ou de domination. Mais une situation qui permet par exemple à une entreprise de disposer d'une base d'autofinancement forte lui permet de s'endetter sans se surendetter, et par conséquent de ne pas se retrouver sous la dépendance de bailleurs de fonds, notamment des banquiers. Alors, si vous voulez, je retournerai votre proposition en disant: l'autofinancement peut être la base d'un financement équilibré, exempt d'effets de domination ou d'effets de spéculation indésirable, pour reprendre le terme que je récusais tout à l'heure, parce qu'il vous permet, par exemple, d'emprunter en vous ménageant des possibilités de remboursement qui ne vous placeront jamais ou qui ne vous placeront pas en position défensive, ou il vous permettra d'ouvrir votre capital sans être dans une situation d'urgence, sans être aux abois. Donc, il est certain qu'en dernière analyse, l'autofinancement est le pivot du montage financier sur lequel repose toute entreprise.